Amen. Vous croyez que le Seigneur est au milieu de nous? Amen. Attendez-vous à lui parce que je crois aussi profondément que le Seigneur va agir particulièrement ce matin. Amen. J'ai intitulé mon message Seul au monde. Finalement, titre un peu bizarre quand on pense que sur Terre, en 2023, nous sommes 8 milliards d'habitants. En France, en 2023, nous avons été comptabilisés comme étant 68 millions d'habitants. Les Hauts-de-France, 6 millions d'habitants. Donc il y a de quoi faire. On est des populations et des générations ultra connectées. WhatsApp, FaceTime, le téléphone, Facebook et j'en passe, TikTok, etc. Tout est fait pour que nous soyons tout le temps au milieu de tout le monde. On est tout le temps connectés, on est tout le temps en réseau, même parfois au détriment de notre vie privée. Et finalement, en fait, eh bien, on est dans cette vie frénétique où tout va vite, où tout est en mouvement constamment. Mais on doit se l'avouer, il y a des temps où finalement, on se retrouve quand même bien seul. Oui, on est plein de monde sur Terre. Il y a même la théorie du fait qu'on soit trop sur Terre, que la Terre n'a pas assez de ressources. Mais il y a des temps où on est seul, où on est profondément seul. Il y a des temps où tu peux être seul parce que finalement tu es d'un coup accaparé par la maladie et la maladie te cloue au lit, te cloue dans une chambre d'hôpital, te met à part des autres. Tu peux être soudainement affligé par le deuil qui va te plonger dans l'agonie la plus profonde de tes entrailles. Et oui, tu seras entouré par l'Église. Oui, tu seras aidé. On va prier. On prie ensemble. La Bible dit de pleurer avec ceux qui pleurent. Et on pleure ensemble. Et on église où on se soutient, où on prie ensemble. Mais c'est toi qui éprouves profondément ton deuil par rapport à l'être cher que tu as vécu. Un fils va pleurer sa mère, va pleurer son papa. Un parent va pleurer son enfant, nous on va être là autour. Mais celui qui vit en tant que père, en tant que mère, en tant que fils, en tant que fille, c'est lui qui vit ces émotions-là. Moi, au fond, je suis à côté de la personne qui souffre. L'Église est à côté de la personne qui souffre. Mais c'est elle intrinsèquement qui ressent au plus profond de sa chair l'être cher qu'elle a perdu. Quand tu es malade et selon la durée de ta maladie, c'est toi qui es éprouvé dans ton corps. C'est toi qui vis avec des infirmités. C'est pas ton frère, ta sœur, c'est toi. Et c'est une réalité que nous vivons au quotidien. Nous vivons intrinsèquement des choses par rapport à notre vie du fait que nous sommes uniques. C'est toi et toi seul qui vas vivre des choses ici-bas, même si nous sommes entourés. Même si nous prions les uns pour les autres, eh bien nous allons vivre des atrocités, des agonies qui sont entre nous, sur nos entrailles, qui sont par rapport à notre vie ici-bas. Nous pouvons vivre des solitudes où finalement parfois ça peut être des bonnes solitudes. Je choisis de me mettre à part pour le Seigneur, de prendre du temps pour le Seigneur. Je me fais une petite journée shopping, une petite journée bien-être pour moi. Ça, c'est sympa. Ça fait du bien, ça vivifie, ça restaure. Mais lorsque tu es licencié, lorsque tu vis un célibat qui dure et qui dure et qui dure et qui dure, c'est toi qui le vis. C'est toi qui rentres chez toi, qui annonce à ta femme ou à ton époux que tu es licencié, qui a reçu la lettre de ce licenciement. C'est toi qui d'un coup ne vas plus te lever pour aller au travail. Lorsque, eh bien, tu es dans le célibat, oui, tu peux être entouré de plein de personnes, avoir plein d'amis, une jolie famille, mais quand tu te couches, tu es seul. Tu voudrais avoir des enfants, mais tu n'as même pas ta moitié. Alors ta vie, tu as l'impression qu'elle n'avance pas. Et tu vois les autres avancer, mais toi, tu restes là. Et tu te sens profondément seul. Lorsque tu es frappé par le deuil, lorsque tu es veuf ou veuve, t'es seul, oui, t'es entouré, oui, les gens vont être autour de toi. Mais c'est toi qui dois t'occuper des affaires de ton mari qui vient de partir. Vous savez tous que dans mon entourage, j'ai une amie, Ruth, qui a perdu son mari et à l'âge de 37 ans. Et je parlais avec elle de ma prédication parce que j'avais besoin de me confronter, voilà, au dur, à ce qui est dur. Et elle me disait, Élise, je sais que Dieu est là. Et je me remets même à toute la souveraineté de Dieu quant au fait que mon mari a été repris. Mais elle dit tous les jours, je suis tout le temps face à la perte de mon mari. Dans l'éducation de mes filles, elle a deux petites filles. Dans tout ce qu'il faut faire encore dans la maison, bah Yann n'est pas là, l'homme de la maison n'est pas là, pour faire certaines choses qui étaient de ses qualités, de ses dons à lui. Elle dit, je sais que Dieu est là et je crois que si je suis debout, c'est parce que Dieu était avec moi. Mais tout me renvoie constamment à la perte de mon mari et au fait que je suis seule avec mes petites filles aujourd'hui. Et ça, c'est sa réalité. C'est sa réalité de son deuil, comme chacun d'entre nous avons pu vivre des deuils où nous avons notre réalité, notre quotidien, notre passé, notre vécu qui va nous ramener à des temps profondément où nous sommes brisés au plus profond de nous et où plein de choses vont nous ramener à une solitude. Une solitude aussi parfois liée à des groupes, à des ethnies, à des couleurs de peau. Alors nous vivons, oui, tous ensemble, dans la communauté, dans le corps de Christ. Mais il y a des temps où nous sommes profondément seuls, seuls face à nous-mêmes, seuls face aux épreuves, seuls face aux émotions. Seuls dans nos choix de ce que nous allons faire pour Dieu, ce à quoi nous allons renoncer. C'est toi qui es appelé à renoncer. Personne ne le fera à ta place. C'est toi qui es appelé à ne pas pécher. Personne ne le fera à ta place. C'est toi qui es appelé à faire telle ou telle chose, à pratiquer tel ou tel don, telle ou telle responsabilité dans l'Église. Et oui, tu vas te retrouver dans des temps où tu seras seul, sous la pression à dire « Mais je fais quel choix pour le Seigneur ? Je fais quel choix pour l'Église ? Est-ce que je dois donner cette parole-là maintenant, plus tard ? Est-ce que c'est bien ça que le Seigneur veut dire ?» Et là, tu es seul avec Dieu. C'est entre toi et le Seigneur. Et ce matin, quand le Seigneur me donnait cette prédication, je voyais comme des zooms sur les cœurs. Parce qu'on est tous là, bien habillés, bien vêtus. Mais on arrive tous avec des temps dans nos vies où on a été profondément seuls. Et cette solitude, eh bien, Jésus l'a vécue. Pourtant, il a été annoncé par les prophètes des centaines d'années avant sa naissance. C'était Jésus, celui qui allait être Dieu fait homme. Mais Jésus lui-même allait éprouver, son entourage allait éprouver des temps profondément de solitude, des temps seuls. Si nous prenons ne serait-ce que la naissance de Jésus. Jésus est né dans une étable avec ses parents. L'hôtellerie était pleine à craquer. Lui, il se retrouve dans une étable entouré d'animaux et d'autres personnes certainement pour aider à la naissance. Mais ce n'était pas une naissance comme tout le monde. Et puis sa naissance, elle va profondément irriter le roi Hérode. Si nous pouvons prendre Matthieu chapitre 2, versets 13 à 16. Donc il est dit, les mages ont rendu visite à Jésus parce qu'il a été annoncé via un ange auprès des mages en disant que Jésus est né, le sauveur du monde est né. Et donc lorsque les mages partent, il dit, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et dit, lève-toi. Prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Tu viens de mettre au monde ton fils et on te dit déjà que quelqu'un veut le tuer. Sympa comme naissance. Les parents, quand même, ils devaient se sentir profondément seuls. Il y a un ange, oui, qui leur parle, mais d'un coup, là, Joseph, il doit prendre des décisions pour sa famille. Il doit prendre sa femme et son fils et partir en Égypte. Avec la maman qui vient d'accoucher. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui était à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Vous imaginez la situation ? Vous venez de mettre au monde votre fils, un roi cherche à le tuer, et parce que vous avez fui, parce que les mages ont déjoué la volonté du roi Hérode, il fait tuer tous les enfants, entre 0 et 2 ans. Vous imaginez la désolation pour les parents de Jésus. Puis Jésus, peut-être qu'enfant, on lui a raconté aussi cette histoire. Tu sais, quand t'es né, ben, y en a plein qui sont morts. Hein. Franchement, les parents qui ont pleuré leur enfant, où tu perds ton petit bébé parce que Jésus est né. Il y avait une désolation horrible sur Bethléem, horrible dans les contrées. Et toi, comment es-tu arrivé au monde? Que s'est-il passé à ta naissance? Ou toi qui as accouché? Ou toi, papa, qui étais à côté, que s'est-il passé pour tes enfants? Qu'est-il arrivé? Que s'est-il passé lors de ta naissance? Puis après, Jésus grandit. La parole de Dieu nous dit que Jésus croissait en force, en sagesse et en intelligence. Luc 2, versets 45 à 52, nous parle du moment où les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Et lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi te cherchions avec angoisse. » Il leur dit « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» 12 ans. Vous imaginez un petit garçon de 12 ans, il est là au milieu des pharisiens, des docteurs de la loi, il leur explique les textes, il les interroge. Tout le monde se rend compte que ce petit garçon-là, il est intelligent, il est doué, il est plein de vivacité d'esprit, il connaît super bien les textes. Et à 12 ans, il dit à ses parents, « Mais vous savez pas que moi, je suis appelé à faire les affaires de mon père, à m'occuper de ses affaires ?» Et parfois, on a des enfants comme ça au milieu de nous, ils sont pas comme tout le monde. Il y a les plus vivaces, les speeds, il y a ceux qui sont planeurs, tête en l'air, tout le temps en train de rêver. Il y a les sensibles, il y a les plus rentres dedans. Et puis nous, on les voit comme ça, et ils ont déjà des étiquettes, mais ils sont comme ça, tels qu'ils sont avec leur identité. Et oui, il y aura des intelligents au milieu de nous, il y aura des speeds, il y aura des forts, il y aura des sensibles. Et ils sont, c'est déjà des petites têtes seules dans leurs émotions, à essayer de tout gérer, à gérer tout ce que Dieu a mis en eux. Et nous-mêmes, on peut peut-être parfois les mettre un peu à côté. Oh, lui, c'est un planeur, il est tout le temps tête en l'air. Oh, lui, il est trop speed. Hein. Mais c'est déjà un enfant dans lequel, et que Dieu a donné, il l'a fait comme ça, tout comme Jésus était. Et Jésus, à l'âge de 12 ans, quand il dit qu'il doit s'occuper des affaires de son père, Jésus, lui, il savait que son ministère, l'apogée de son ministère, ça allait pas être remplir le zénith, ça allait pas être, je vais faire plein de missions, je vais faire le tour du monde, ça allait être la croix. Jésus l'a su très vite et depuis très longtemps, il savait, il marchait au milieu des disciples et même dans son jeune âge, et je crois que même quand il était adolescent, il savait déjà qu'il vivait avec une destinée particulière parce que quand tu dis à l'âge de 12 ans que tu es appelé à t'occuper des affaires de ton père et que tu es en train d'expliquer les textes au docteur de la loi, il savait que c'était la croix. Il savait que lui, son apogée de ministère, ce serait la croix et rien d'autre que l'agonie et les souffrances à la croix pour l'humanité. Et donc, il devait voir le monde bien différemment de nous tous et de tous ceux qui l'entouraient. Il vivait les situations avec une telle connaissance, oui, avec la plénitude de l'esprit, mais en sachant qu'il allait aller à la croix. Alors, il était seul. Dans ses perceptions, dans son entendement, dans ses compréhensions. La parole de Dieu nous dit aussi que quand il se retirait seul pour prier, il se retirait seul pour chercher la face de Dieu. Lorsqu'il va apprendre le décès de son cousin, Jean-Baptiste, il prendra ses disciples et ils iront à part, se mettre à part. Son cousin venait de décéder parce que le roi l'a tué parce qu'il avait promis à sa belle-fille en disant « Dis-moi ce que tu veux, je le ferai. » Et sa belle-fille lui dit « Donne-moi la tête de Jean-Baptiste. » Hop, un membre de la famille qui part. Mais il y a aussi ce temps de la passion de Christ. Ce temps où le prophète Ésaïe, chapitre 63, verset 3, va prophétiser un moment où Jésus va être profondément seul. Et là, Ésaïe dira, « J'ai été seul à fouler oppressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur, leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. » De quoi parle le prophète Ésaïe ? Lorsqu'il dit que Jésus était seul à fouler oppressoir et nul homme d'entre les peuples n'était avec lui, il parle du jardin de Gethsémané. Gethsémané, ce jardin dont on disait Gethsémané, le pressoir à huile. Jésus va y aller dans ses derniers moments avant d'être arrêté avec ses disciples. Bizarre, Ésaïe dit, il était seul au pressoir. Il était seul, c'est dit, il était seul. Et pourtant, quand on écoute et quand on lit les évangiles, c'est dit qu'il était avec ses disciples et qu'il va s'y rendre avec ses disciples. Alors, permettez-moi de faire un focus sur le jardin de Gethsémané. Qu'est-ce qui s'y passe au jardin de Gethsémané ? Marc, chapitre 14, versets 32 à 42. Donc là, il est dit, donc il, c'est Jésus et les disciples, ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors ? Tu n'as pas pu veiller une heure ? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau. Et il prie, et la Bible dit qu'il priait même à genoux, il est là à genoux, et les disciples sont juste à côté. Et il s'éloigne, il prie à nouveau, et il fit la même prière. Il revient, il retourne vers les disciples, et qu'est-ce qu'il voit ? Il les voit endormis. Leurs yeux étaient appesantis. Ils ne savaient pas que répondre. « Ah bah, désolé Jésus, on n'a pas su. » On n'a pas su être avec toi. On n'a pas su la prier. On n'a pas su venir avec toi et se mettre à genoux devant le Père. Alors que tu nous as dit que ton âme était angoissée. Alors que tu nous as dit que tu étais triste jusqu'à la mort. On n'a pas su. On n'a pas su. On t'a laissé tout seul. Et Jésus était seul, entouré. Et parfois nous sommes comme ça, nous sommes entourés de monde. On dit aux gens, viens, fais ça avec moi, s'il te plaît, prie pour moi, fais ça. Mais nous sommes profondément seuls, comme Jésus a été seul. Oui, entouré, mais seul devant le Père, en train de dire que cette coupe, si tu veux, cette coupe pourrait s'éloigner de moi, mais que toutefois, ta volonté soit faite. Et les disciples, pourtant, ils étaient pleins de bonne volonté. Ils étaient pleins de bonne volonté. Pierre dira, mais moi, j'irai avec toi jusqu'au bout, je mourrai pour toi. Il dirait, les autres, ils le feront peut-être pas, mais moi, je le ferai. Il insistait. Alors, il les trouve encore endormis. Il revient encore une troisième fois. Il leur dit, donnez, dormez maintenant et reposez-vous, c'est assez. L'heure est venue, voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Jésus est au pressoir. Il est en train d'être pressé, comme on pressait les olives pour sortir l'huile. Il est pressé, il leur dit, vous imaginez l'instant de entre hommes, il leur dit, mon âme est angoissée. Il leur dit, mon âme est troublée jusqu'à la mort. Ils ont vécu 3 ans avec Jésus. Ils ont vu Jésus faire des grands miracles, des grands prodiges. Ils ont vu Jésus guérir les malades. Ils ont vu Jésus chasser les démons. Il a marché sur l'eau. Il connaissait toutes choses, rempli de compassion, rempli de miséricorde, rempli d'autorité. Mais là, en cet instant, au pressoir, il leur dit « Mon âme est angoissée ». Ça veut dire que l'âme de Jésus était remplie de frayeur, remplie d'angoisse, remplie de terreur. Lorsqu'il dit que son âme est troublée jusqu'à la mort, ça veut dire qu'il est rempli de tristesse jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Son âme l'emportait, la tristesse l'emportait vers la mort. Alors, dans Luc, quand il parle de ce passage, Luc 22, versets 43 et 44, dit qu'un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Là, en cet instant-là, la situation clinique de Jésus, elle est grave parce qu'il y avait une pression telle en lui, c'était tellement pressant dans son corps entier, corps, âme et esprit, que ben, les globules rouges vont commencer à passer à travers les pores de sa peau, à travers sa peau. On a déjà tous connu des angoisses, nous avons déjà tous connu des agonies, des tristesses. Et Jésus, ce sera jusqu'à ce que son sang passe à travers sa peau. Et si l'ange ne venait pas, Jésus ne pouvait pas continuer son chemin vers la croix. Si l'ange ne le fortifiait pas, il ne pouvait pas aller plus loin parce que cliniquement, il était cuit. Il était complètement cuit sur là, à terre, éprouvé par tout le poids dont Dieu était en train de le charger. Il était en train d'être chargé de nos péchés. Il était en train d'être chargé de nos meurtrissures. Il est là devant le Père. Et alors il voit l'ange qui le fortifie pour aller nul autre coup à la croix. À la croix. Fortifié pour la croix. Fortifié pour renoncer. Fortifié pour encore vivre d'autres douleurs, encore d'autres agonies, pour l'accomplissement de la volonté de Dieu pour l'humanité. Amen. Hébreux 5, verset 7, il est dit, l'auteur de l'Épître aux Hébreux parlera de ce moment au pressoir en disant que c'est dans les jours de sa chair et y est présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications. C'était pas les cheveux bien mis, la tête bien faite. C'est dans des larmes, dans des grands cris. Ils ont entendu Jésus crier, être éprouvé. Ses larmes ont coulé sur son visage. Il était dans un corps de chair. Et souvent, il y a ce combat en nous en disant « Oui, mais c'était Dieu fait homme. » Alors c'est comme s'il passait au-dessus de tout. Il planait Jésus. Hop, non, il a failli mourir au jardin de Gethsémané. Tellement c'était dur, tellement il était angoissé, tellement il avait mal, tellement il était affligé, tellement il était triste. Ça l'emmenait vers la mort. Et il était homme comme vous et moi. Il était homme comme vous et moi. Et Jésus, ce qui lui plaisait quand il se présentait aux gens, il disait pas « Je suis le grand Dieu, je suis avec telle onction, je suis comme ça ». Il disait, il parlait de lui à la troisième personne du singulier, il disait « Je suis le Fils de l'homme ». Il parlait de lui en disant « Fils de l'homme ». Et il dira dans Matthieu, verset 20, « Les renards ont des trous, ont des tanières pour s'abriter, et les oiseaux ont des nids ». Mais le Fils de l'homme n'a pas un seul endroit où poser sa tête. Pas un seul endroit. Et Jésus, il était comme vous et moi. Il avait besoin de se reposer. Il était fatigué. Il avait des temps où il avait faim, des temps où il avait soif. Mais pour le Fils de l'homme, pour celui qui était dans la chair, pour celui qui a donné des grands cris devant l'Éternel, il n'y avait pas un endroit où poser sa tête, pas un endroit où se reposer. Il était pleinement homme, il était dans sa condition d'homme, dans sa chair, pleinement homme. Et en tant qu'homme, il va être brisé sur la croix, il va être pressé au jardin de Gethsémané pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous, pour nos péchés, pour nos meurtrissures. C'est Jésus homme, en tant qu'homme, il a été brisé à la croix, il a pris les clous. Les clous en tant qu'homme, en tant qu'homme, en tant qu'homme, en tant qu'homme. Il était Fils de l'homme. Il était Fils de l'homme, né de Marie. Il était Fils de l'homme. Il était Fils de l'homme. Homme, homme, pleinement homme, brisé sur la
mes transgressions et il allait souffrir pour prendre un jour toutes mes meurtrissures, tous mes deuils, toutes mes agonies, toute ma souffrance, tout ce qui me plonge dans le désarroi. Il l'a fait pour toi, pour moi. Amen. Ouais. Et oui, Jésus, il était homme, mais il était Jésus le Christ, Jésus le Oint, Jésus sur qui la plénitude de l'Esprit de Dieu était sur lui. Il dira dans Luc, chapitre 4, versets 18 et 19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Mais il fallait qu'il soit brisé à la croix. » Il fallait qu'il soit brisé à la croix pour qu'ensuite le Saint-Esprit puisse jaillir sur toute l'humanité. Il ne pouvait y avoir de Saint-Esprit sans que Jésus aille à la croix, parce qu'en lui était la plénitude de l'Esprit. Et pour que la plénitude de l'Esprit puisse habiter ensuite dans le monde entier, dans l'univers entier, il fallait que Jésus soit pressé, il fallait qu'il soit brisé à la croix, tout comme il fallait qu'il ait effusion de sang pour la rémission de nos péchés, il fallait qu'il soit brisé pour que l'huile puisse couler sur nous. Oui, durant son temps ici-bas, il avait pleinement l'esprit, il faisait couler l'huile, il avait une autorité que nul autre n'avait. Mais ensuite, il a brisé son corps sur la croix pour qu'il y ait effusion de sang et pour qu'il y ait effusion du Saint-Esprit. Mais au prix de sa vie, au prix des clous, au prix du brisement, au prix du renoncement, au prix du pressoir, au prix de la croix. Alors Jésus, fils de l'homme, Jésus le Christ, Jésus le Oint, il a dit quoi? Il a dit, Matthieu 11, dans Matthieu 11, versets 28 à 30, il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mon joug, le joug du Seigneur est doux. Le joug et le fardeau du Seigneur est léger. Le joug est une pièce de bois que l'on pose sur la tête des bœufs avec laquelle ils sont attelés pour tirer la charrue. Les bœufs étaient complètement liés par cette pièce de bois. Ça les dirigeait, ça les contraignait. Qu'est-ce qui te dirige ce matin et qu'est-ce qui te contraint ce matin ? Quel est ton joug? Quel est ton deuil? Quelle est ta souffrance? Quel est ton brisement? Comment tes entrailles ont été marquées dernièrement? Et ça vient comme sur toi comme un manteau, comme un joug. Tu es lié, tu es plaqué par des émotions, par des angoisses, par des deuils, par des brisements. Et Jésus te dit ce matin, je vais changer ton joug et je vais mettre le mien. Je vais mettre l'huile sur toi. Je vais mettre l'allégresse sur toi. Je vais mettre la légèreté sur toi, la joie au lieu du deuil. Je vais mettre la joie au lieu de la dépression. Je vais mettre la paix là où il n'y avait plus de paix. Je vais mettre la lumière où il y a les ténèbres. Je vais changer les vêtements de deuil en vêtements d'allégresse. Parce qu'il est le Seigneur, celui qui portait pleinement l'huile et celui qui s'est brisé pour nous et qui a pris les meurtrissures pour nous à la croix. Joug de douleur, joug d'incompréhension, joug où tu as des traumatismes en toi, dû à ton enfance, dû à des choses que tu as vécues. Alors le Seigneur nous appelle et nous dit « Viens, viens ». Viens à moi, viens toi qui es fatigué et chargé, je sais ce que tu as vécu, j'ai été sur la croix. Quand je me suis présentée à Thomas, mes mains étaient percées, les mains de Jésus étaient percées, elles étaient percées, c'était véritable. Il lui montrait, mes mains ont été percées pour toi. Alors il est capable de nous dire ce matin, viens, viens toi qui es fatigué, viens toi qui es chargé, et je te donnerai du repos, je te donnerai du repos pour ton âme, et je te vivifierai. Et Anne, dans la Bible, savait, dans ces temps de plus profonde douleur, elle qui n'arrivait pas à enfanter, elle qui devait faire face à la femme, à la seconde femme de son mari, Pénina, la rivale, qui lui disait « Regarde-toi, toi qui ne sais pas enfanter, toi qui n'as pas d'enfant, regarde-moi tout ce que Elkana m'a donné comme fils et fille. » Alors, ce qu'elle a fait à un moment donné, elle en avait marre. La coupe était pleine. Eh bien, la parole de Dieu nous dit qu'elle a fait quoi? Elle est allée devant l'Éternel et elle a déversé son âme. Elle a déversé son âme. 1 Samuel 1, versets 10 à 16. L'amertume dans l'âme. Anne n'en pouvait plus. Elle avait l'amertume au plus profond de ses entrailles. Et elle dira, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. » Et le mot en hébreu « répandais », c'est au sens figuré, c'est comme un enfant quand il renverse un verre. Vous avez déjà vu les enfants quand ils renversent le verre? Il y a tout qui part sur la nappe, tout part à terre et parfois même le verre est cassé. Eh bien, le Seigneur nous appelle à répandre notre âme comme Anne a répandu son âme, c'est-à-dire je déverse mon âme devant l'Éternel et je ne peux même pas rattraper ce que je suis en train de déverser. Et quand le Seigneur nous dit « Viens à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos », c'est aller à lui jusqu'à ce que tout soit complètement déversé, tout ce qui était au plus profond de nos entrailles, tout ce qui était dans notre être, tout ce qui nous liait, tout ce qui nous retenait, eh bien, on va devant l'Éternel, jusqu'à ce que on ait complètement déversé et que nous sachions plus le reprendre. Alors tu ne repars plus avec ton joug, tu ne repars plus avec tes liens. Amen. Et si on peut aller jusqu'au verset 18, donc elle disait, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et si tu peux aller jusqu'au verset 18, il est dit normalement dans la suite qu'ensuite, eh bien, Anne va se relever, va manger et son visage va être changé. Le Seigneur nous appelle à aller à lui jusqu'à ce que notre visage ait changé, jusqu'à ce que notre joug soit, le joug qu'on avait sur nous soit brisé, jusqu'à ce que nos liens soient brisés, jusqu'à ce que, eh bien, là où il y avait des blessures, jusqu'à ce que les plaies soient pansées. Son visage ne fait plus le même. Et c'est ce que le Seigneur veut nous donner ce matin. Il veut donner des visages différents. Il veut donner des nouveaux vêtements. Des vêtements d'allégresse au lieu du deuil. Des vêtements de joie au lieu de la tristesse, au lieu de l'abattement. Psaume 147, verset 3, il est dit, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. » Le Seigneur veut panser nos blessures ce matin. Il veut panser tes blessures, il veut panser les miennes. Il veut panser tes traumatismes, il veut les prendre.